C'est la deuxième fois que je vois ce genre d'expérience. Lyon, il y a une vingtaine d'années, avait, mais ils l'ont perdu, cette formule, et ils m'avaient invité. Au moment où j'élaborais un concept opératoire pour mes recherches, que j'appelais à l'époque le troisième sexe social. Et la recherche, la revue La Recherche, donc qui est une revue interdisciplinaire, on avait entendu parler, m'avait demandé de leur faire un papier sur ça. Sauf que dans le titre, ils avaient laissé tomber social. Ils trouvaient que c'était plus attracteur comme titre, attractif, d'avoir le troisième sexe. Bon, ça, ce sont les éditeurs, il faut toujours se battre un peu avec eux, ils ont leur propre logique. Et donc, ça m'avait valu toutes sortes de correspondances, d'invitations, etc. Et j'avais participé à un premier colloque d'anthropologues féministes. Et je m'étais retrouvé, on n'était que deux hommes dans une salle de 400 personnes. Donc, j'avais des collègues qui me connaissaient bien, que je connaissais bien. Et il y avait, dans le deuxième homme, c'était Wetzerling, qui était à Lyon et qui avait lancé la formule du bistrot des ethnologues. Alors, bon, on avait un peu discuté, un peu débattu, mais c'était intimidant de n'être que deux hommes, et surtout moi, avec mon concept de troisième genre, on dirait maintenant, c'était très dérangeant pour les féministes, parce que ça venait introduire une dimension à laquelle elles n'étaient pas préparées. Parce qu'en la creusant, elles risquaient de s'y retrouver pour une bonne part. Et du coup, ça imposait une vision autre, plus complexe. Bon, on reviendra là-dessus, mais c'est quand même présent dans mon titre. Le sous-titre est « Homme, femme ou chaman ». Ce qui introduit un troisième terme, même si à aucun moment dans mon livre, je ne parle de troisième genre ou troisième sexe. Mais Lévi-Strauss, qui l'a lu en détail, est tombé dans le piège, et c'est lui qui, dans la préface, utilise le terme. Alors, j'ai été ravi lorsque j'ai reçu cette préface, parce que c'est un homme, bon, sur le piédestal sur lequel il se trouve, qui a été souvent accusé de binarisme, de s'enfermer dans des bonnets binaires, les oppositions binaires sont dans la logique sémiologique, enfin bref, je pense que le cerveau fonctionne de cette façon. Mais il a aussi écrit un jour qu'il y a toujours un troisième terme quelque part, qui transcende les deux autres. Enfin, là, j'étais très heureux lorsqu'il a écrit cette petite phrase sur le chaman dans le fond comme troisième sexe, donc comme médiateur. Mais nous reviendrons sur ça. C'est la deuxième fois que je viens à Montpellier. J'étais venu présenter un ouvrage il y a quelques années qui est justement « Au pays des Inuits, un peuple, un film, une légende » sur Atanarjoa, qui a été édité par des éditions indigènes, donc basées à Montpellier, qui m'avait invité. Et il s'agit d'un film qui a été réalisé dans la communauté où, depuis 30 ans, je retourne chaque année. Donc je connaissais intimement tous ceux qui ont fait le film, qui m'avaient même consulté pour certains aspects du film, et qui m'ont demandé de faire ce livre en français, pour le public français, afin d'expliquer, parce que ce grand film est en langue inuite, c'était une première, je pense, dans l'histoire un peu du cinéma, avec sous-titres français, mais ça veut dire aussi qu'on perd un peu 40% du contenu. Et alors, en ce qui concerne le chamanisme, le symbolisme, il était bon d'avoir, je pense, l'ouvrage qui donne tout ce qui est dit dans le film, mais qui décrit aussi les actions qui ne sont pas commentées, c'est pas un documentaire. Et donc, cet ouvrage... Alors, j'en ai apporté quelques exemplaires, on verra tout à l'heure ceux qui aimeraient l'acquérir. Merci pour la présentation. C'est pas facile de présenter quelqu'un qui a 71 ans et qui, depuis l'âge de 17 ans, sillonne l'Arctique. J'ai commencé par l'Arctique européen. Alors, je vous excuserai des quelques petites erreurs que vous avez pu faire quant aux dates ou quand, parce que j'ai commencé, je pense, à une époque où vous étiez encore même pas un projet. Alors, bon, on a peu de mérite quand on a la chance d'atteindre, de dépasser, j'espère encore pour un bon moment, ce cap des 70 ans en bonne santé. Et ce n'est que le temps qui fait que ce que vous avez fait il y a 50 ans prend de la valeur. En soi, ça n'avait rien d'exceptionnel à l'époque, y compris, j'allais dire, les objets que j'ai pu rapporter il y a 40 ans et que je redonne aux Inuits et qui en font les pièces maîtresses de leur musée, en me considérant comme, j'allais dire, un ancêtre qui revient. Bon, c'est l'âge. Alors, l'âge a des inconvénients, mais parfois, il a cet avantage que des choses banales que vous avez faites prennent de la valeur avec le temps. Vous savez, ces vieux fer à repasser d'autrefois qu'on faisait chauffer sur la cuisinière à bois ou à charbon, et qu'on trouve maintenant chez les antiquaires, qui ont pris une valeur parfois considérable, alors que ce n'était que des objets du quotidien. Avec le temps, l'objet, les personnes aussi, ou leur expérience, prennent une valeur tant qu'elles sont en vie pour en parler, pour pouvoir en parler. Alors, je ne reviendrai pas sur ces... Je ne compte même plus, on est rendu à plus de 50 ans. Mais je voudrais reprendre un élément dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est Marcel Mauss. Peu de gens connaissent Marcel Mauss, c'est pourtant le fondateur de l'ethnologie française. Et on a fêté l'année dernière le 100e anniversaire de la publication de son essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, comme on les appelait à l'époque. Et j'ai voulu marquer cet événement par un retour à Mauss, et pour la première fois, nos congrès d'études inuits, qui ont lieu tous les deux ans, et qu'on organise depuis 30 ans, pour la première fois, il a eu lieu en France l'année dernière, et ça a été le premier événement scientifique au musée du Quai Branly. J'avais participé à un comité de configuration du musée, de préfiguration pour la section Amérique. Donc je connaissais très bien des gens comme Gottlieb, comme Viat, enfin des responsables de la muséologie ou de la recherche. Et je leur ai dit pourquoi ne pas célébrer ce 100e anniversaire de Mauss. Ils avaient trouvé l'idée intéressante, donc le congrès a eu lieu là. Il y a eu un atelier sur Mauss et l'anthropologie des Inuits. Et il y aura, je pense dans un mois, un numéro de la revue Études Inuits consacré à Mauss. Et j'y ai fait une préface. Bon, j'en parle un peu parce que je l'ai envoyé hier par courrier électronique à Québec. J'essaye d'établir la jonction avec Mauss, surtout son poulain, qui était Paul-Émile Victor, qui était l'ethnologue, inuitologue, jusqu'en 1939, le plus prometteur, qui parlait la langue, qui avait passé plusieurs années de vie intime avec les Inuits, et qui était destiné à une carrière académique. Et il aurait été certainement celui qui aurait réalisé les espoirs de Mauss, qui lui n'avait jamais été sur le terrain, donc qui était ce qu'on appelle un anthropologue en chambre, mais génial, parce qu'il parlait 6 ou 7 langues, il avait tout lu en 1905, donc avant de publier son essai, et il a eu des intuitions extraordinaires, parce que cet homme, c'était l'époque où les sciences religieuses étaient très en vogue, la sociologie naissante, durkheimienne, attachait beaucoup d'importance à cette dimension, parce que la religion était considérée par ces sociologues comme le phénomène collectif par excellence. Et pour eux, le social naît du collectif. Et c'était une époque où on luttait contre l'individualisme, une idéologie prussienne basée sur le développement, la compétition, l'effort individuel, le progrès, etc. Et puis l'expansion démographique, coloniale, etc. Et alors que Mauss, au contraire, allait en sens inverse, en reprenant certaines valeurs républicaines, mais où c'est le collectif, c'est le lien social. Et il voyait dans l'hiver et sa vie collective la quintessence du social. L'été, on se repose. On a tellement été dans le communisme, on appelait ça le communisme. À l'époque, c'est assez étrange. Le terme a dévié par la suite et a eu une connotation beaucoup plus politique, mais en 1905, le communisme, c'était le rêve des gens de gauche. C'était un mode de vie qu'on pensait avoir été celui des sociétés qu'on appelait archaïques. Et alors Mauss parle à propos des Inuits de communisme économique, de communisme familial, les enfants sont à tout le monde, et de communisme sexuel. Et ça impressionnait beaucoup Mauss. Mauss était issu d'une famille juive très pratiquante, alsacienne, réfugié lui à Épinal, et où le, c'était le neveu de Durkheim. Et bon, vous connaissez le concept de mère juive, mère qui s'occupe de tous ses enfants, etc. Bon, il avait une mère juive, sœur de Durkheim, et toute la famille s'occupait des affaires de Mauss. Il lui envoyait de l'argent pour qu'il puisse continuer à étudier et n'appréciait pas du tout ces petites escapades sexuelles un peu libertaines. Et son, on a retrouvé dans sa correspondance des lettres de son oncle lui disant « Tu les as dans la famille, arrête tout de suite cette liaison ». Il a fini par épouser, mais après la mort de sa mère, il a épousé son ami de cœur avec qui il vivait depuis quelques années. Et ça a été un mari dévoué, il est mort d'après une très longue maladie. Mais on sent que quelque part, il intériorisait cette importance du collectif qu'il vivait là dans sa famille. Et quelque part, j'ai cru retrouver dans son essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, des choses qu'il avait vécues un peu à sa façon. C'est-à-dire une intense vie collective, où on partage, on aide économiquement, etc., mais on contrôle aussi, quelque part, la vie de l'individu. Et puis, le repos. Il disait, l'été, c'est l'individualisme, les familles partent avec leurs propres enfants, on ne partage plus le gibier, on n'a pas besoin, le gibier est en abondance, et on retrouve l'hiver. Et il disait, dans le fond, dans toutes les sociétés, il y a quelque chose comme ça, et il évoque, dans nos sociétés, les vacances. Alors, c'est l'inverse, c'est l'été où l'on sort, c'est plus la même morale, c'est plus le même droit, c'est plus les mêmes règles, etc. Et puis, l'hiver, on retrouve sa petite vie morale, conjugale, familiale, etc. Enfin, bref, il mettait le doigt sur certaines règles, vous voyez, universelles, et qui ont suscité quelques études utilisant son modèle de la part de Britannique surtout. Et puis, cet essai est tombé un peu dans l'oubli après surtout la publication de son essai le plus célèbre, l'essai sur le don, qui est un peu à la base de tout un grand courant, y compris même de la théorie de l'échange de Lévi-Strauss. Son structuralisme, les structures élémentaires de la parenté, l'échange des biens, l'échange des mots et l'échange des femmes, la façon dont Lévi-Strauss avait formulé son échange matrimonial, c'est-à-dire des familles. Je te donne ma sœur et tu me donnes la tienne. On appelle l'échange simple qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. Moi, j'ai retrouvé ça chez les Inuits. Des familles donc, qui font des doubles alliances. Et ils trouvent ce remède pour créer des liens et c'est le plus simple et le plus fort. Donc, hommage à Mauss, et je suis très heureux de faire ce petit commentaire, parce que l'héritage de Mauss a été comme stoppé à la fin de la guerre, quand Victor a choisi de ne plus faire d'ethnologie et de lancer les grandes expéditions polaires qui portent son nom. Il revenait de l'expérience de la guerre, Mauss était très malade en 1947, ne pouvait plus s'occuper de ses poulains, avait démissionné de sa chaire au Collège de France. Et bon, Victor s'est lancé dans ces grandes organisations logistiques d'expédition. Et c'est lui qui aurait pu reprendre cette technologie, ce travail aussi collectif, cette conception de la recherche. C'était un grand humaniste. Je l'ai connu, j'en suis très content. Et on est revenu à ce qu'on appelait avant Mauss l'anthropogéographie. Mauss avait écrit son essai pour réagir contre un courant né de la géographie allemande, évolutionniste et individualiste, un peu raciste aussi. Il avait créé son concept de morphologie sociale pour réagir contre cette anthropogéographie et pour essayer d'insuffler cet esprit de la sociologie durkheimienne, qui est devenu aussi à la base de l'ethnologie française, où Mauss a mis sa marque après la mort de Durkheim. Et ça a été interrompu, et c'est donc hors de France que le souvenir de Mauss a été entretenu peut-être le plus. Je ne parle pas de son essai sur le don, qui lui a connu une assez grande fortune, et en France et à l'international, il existe ce mouvement Mauss, mouvement anti-utilitariste en sens social, c'est le si, mais qui s'inspire beaucoup plus de l'essai sur le don, donc c'est un modèle plus au niveau socio-économique, que de l'essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, où, comme je vous le disais, c'est le mariage du religieux, de la parenté, du problème du genre, les structures familiales, etc. Tout ça mis ensemble avec une perspective globale, donc un peu ce que Mauss a appelé par la suite phénomène social total, qui est, certains aspects ont été repris dans l'essai sur le don, mais j'essaie d'aller aux sources et de retrouver ce qu'il y avait à la base de ce dualisme saisonnier. Et disons que mon apport, si apport il y a au débat de Mauss, ça a été, en reprenant, en étudiant ce dualisme saisonnier, de découvrir qu'en arrière-plan de cette opposition binaire dualiste, hiver-été, valeur collective, valeur individuelle, dispersion estivale, quand il y a beaucoup de gibier, concentration hivernale, se cachait un autre dualisme, qui est le dualisme des sexes et des genres. C'est-à-dire que ce dualisme des saisons est pensé à travers le dualisme des sexes. Et j'ai découvert ça en étudiant le vocabulaire chamanique, car le terme pour dire été est un terme dont le radical est femme ou femelle, le même terme va valoir pour les animaux. Et le terme pour dire hiver est construit sur la racine homme ou mâle. Et j'ai retrouvé ça dans les mythes aussi. Que le premier mythe dans la cosmogénèse, c'est le mythe de la diversification des sexes, la création de la première femme à partir d'un homme. Et que c'est à travers cette première différenciation que vont être pensées toutes les autres, ce qui entraîne une sexualisation du monde, qu'on retrouve dans, j'allais dire, toutes les sociétés, ou du moins la plupart, Balandier, perçu pour les sociétés africaines qu'il a étudiées. Cette sexualisation du monde veut dire que soleil est féminin, l'esprit du soleil c'est une femme chez les Inuits, lune c'est masculin. Et que tout le cosmos va être divisé en quelque sorte en deux. Il y a des vents mâles, des vents femelles, etc. Et on a là un grand dualisme. Dont Mauss avait raison de trouver le dualisme, sauf que celui des saisons est quelque part secondaire, subordonné à l'autre. Et c'est là que ma contribution première a été faite, quand j'ai vraiment travaillé sur ces saisons, et c'est pas simple. Parce que dans le Grand Nord, les mouvements lunaires et solaires ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Vous avez entendu parler du soleil de minuit, ça c'est un peu romantique, on vous vend les voyages au Cap Nord sous ce label, mais vous ignorez qu'au cœur de l'hiver, il y a ce qu'on appelle la lune, la pleine lune de midi. C'est-à-dire que la pleine lune, dans les mois d'hiver, quand la lune est pleine, elle ne se couche pas, à partir d'une certaine latitude, donc au-delà du cercle polaire, et dans la région d'Igloolik, qui est à peu près au 70e degré de latitude nord, elle peut tourner pendant 8 jours dans le ciel sans se coucher, dans la nuit hivernale, à une époque où le soleil n'apparaît pas. Donc c'est vraiment le symétrique inverse du soleil de minuit. Soleil de minuit, vous ne voyez pratiquement pas la lune à ces époques-là. Eh bien, au cœur de l'hiver, vous ne voyez pas le soleil. Il apparaît en dessous de l'horizon, c'est-à-dire que vous avez une petite lueur à midi, un peu rosée, plein sud. Alors que plein nord, vous avez la lune qui descend un peu au-dessus de l'horizon, qui remonte. Et à minuit, elle est complètement à la verticale dans le ciel, ce qui fait qu'on peut aller chasser par temps de pleine lune, on peut se déplacer, etc. Donc c'est en travaillant avec un logiciel astronomique que j'ai découvert ça. Et quand j'ai découvert, en essayant de calculer les heures de coucher de la lune, à un moment donné, j'ai dit, mon ordinateur a été craqué, je n'arrive pas à trouver l'heure pendant 8 jours. Alors j'ai été voir un astronome, le premier n'a pas su me répondre, un autre qui enseignait à l'université Laval, qui m'a dit, à quelle latitude êtes-vous ? Il dit, ah, mais c'est la lune circumpolaire. Ah, première nouvelle. Et en travaillant sur la lune, j'ai découvert qu'il y avait un cycle très complexe qu'un savant grec qui s'appelait Méthon avait découvert 4 siècles avant Jésus-Christ, qu'il fallait 19 ans. Ce cycle était de 19 ans. Donc le phénomène dont je vous parle varie sur 19 ans. il y a des années d'apogée. En 2007, ça va être la grande année. Et vous verrez que même chez nous, sans doute, imagine, la Lune, pendant les mois d'hiver, va monter plus haut, plus au nord. Donc, ce phénomène que je vous décris est visible maintenant. Ces hivers, ces quelques hivers, va avoir son apogée en 2007 et va diminuer. Et il y aura 2 ou 3 ans pendant ce fameux cycle de 19 ans où on ne le verra pas. Et j'ai eu de la chance, travaillant sur la longue durée, de prendre une photo à midi, en pleine nuit polaire, à Igloolik, un mois de décembre 1971, et de revenir en 90. C'était d'ailleurs mon voyage de noces, je venais de me marier. J'emmène mon épouse là-bas pour essayer de voir le phénomène 19 ans après, au bout du cycle de Méton, et on a eu la chance de pouvoir prendre des photos en se gelant les mains, etc., de la Lune à midi, au même endroit où je l'avais vu 19 ans après. Alors, bon, ça c'est de l'ethnographie sur de la longue durée, et j'encourage les jeunes ethnologues, les ethnographes à persévérer, parce que ça vous donne aussi des grosses satisfactions, en plus de quelques enjeux au bout des doigts. Voilà donc pour Maud. J'y suis retourné en 54, 55 je vais au Canada, début 56 j'arrive à passer l'hiver à Kroartak, petit village du Nunavik, et c'est là que j'emportais une caméra 16 mm avec en tout 10 bobines de 3 minutes, dont j'ai tiré un petit documentaire de 21 minutes, que j'ai eu la chance de pouvoir projeter devant Jean Rouch, qui était encore en vie à ce moment-là. Et ils m'ont donné, avec son jury, le prix Connaissance du Monde, 56. J'étais très fier, avec mon petit bout de film sur la vie d'hiver des Inuits, dans le nord du Canada. Et depuis, ça a toujours été un souci chez moi d'essayer de fixer par l'image, et depuis que la vidéo existe, par le son aussi, les entrevues. Parce que les premières fois que je suis venu présenter au séminaire de Lévi-Strauss des données originales que je venais de recueillir à Igloolik, ce village assez traditionnel et assez haut en latitude, dans l'auditoire du séminaire, il y avait certains de mes anciens professeurs, dont l'un, que j'aime bien, mais qui dit comme ça à la fin de ma présentation, je venais, imaginez, de parler des souvenirs intra-utérins d'une vieille dame qu'elle m'avait raconté et qui m'avait aidé à construire un modèle synthétique un peu en poupée russe qui partait de l'utérus, qui allait jusqu'à la voûte céleste en passant par un niveau intermédiaire qui était l'igloo. Donc vous voyez, 3 habitats, l'utérus maternel, l'igloo familial et la voûte céleste qui englobe tous les humains. Et alors il s'est élevé après et dit, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce beau modèle n'est pas un pur produit du cerveau de Saladin d'Angleterre? Et que ce que vous nous racontez, en quoi est-ce que c'est en rapport avec la pensée des humains? Alors ça m'avait complètement scié. On se prépare bien à faire l'exposé, mais on se prépare mal à ce genre de questions. Lévi-Strauss est venu à mon secours en disant, écoutez, on a là un beau modèle qui a certainement une valeur heuristique, c'est-à-dire qui aide à donner du sens à des choses qui jusqu'à présent n'en avaient pas. Mais je me suis juré que quand je reviendrai présenter quelque chose devant ce séminaire d'amis, de collègues et d'anciens professeurs, je viendrai avec des preuves. Et ces preuves, ce seraient des entrevues filmées où ce sont mes amis inuits, mes informateurs, informatrices qui parlent. Et donc là, on ne pourrait pas leur faire ce reproche qu'on m'avait fait. Et donc, je me suis imposé ça, et j'en suis très heureux parce que ça m'a permis d'établir tout un archivage de témoignages d'une grande valeur maintenant. Et maintenant qu'il existe de la haute définition, etc., là, je reviens d'un séjour en Amazonie. J'ai oublié de mentionner ça, que depuis quelques années, ma femme est une spécialiste de l'Amazonie, l'anthropologue aussi. Et depuis 15 ans, plus 18 ans, nous faisons des comparaisons entre l'Amazonie péruvienne, où il y a du chamanisme très actif, le nord du Canada et la Sibérie. Nous avons fait 3 voyages en Sibérie, où le chamanisme, le mot chaman, vient de Sibérie. Donc, quand en 1990, la Sibérie a commencé à s'ouvrir, on est allé là-bas pour essayer de retrouver d'anciens chamans ou des descendants de Chaban. C'était pas simple, parce que 70 ans de régime communiste et soviétique n'a pas donné beaucoup d'air aux chamans. Beaucoup ont été persécutés ou emprisonnés, etc. Mais on a quand même pu faire des entrevues là-bas qui nous ont aidés à faire de nouvelles enquêtes, à poser des questions nouvelles en Amazonie et par voie de ricochet. Ce qui fait qu'on a développé ensemble une approche qu'on appelle, pour emprunter à Marcus le terme, une ethnographie multisite, peut-être pas tout à fait dans le sens où il l'a évoqué lui, mais comment, en travaillant sur un problème qui déborde une région, qui déborde une ethnographie locale, comme la plupart des ethnographes apprennent à travailler, ils deviennent spécialistes d'un groupe, d'une région, comment, quand on atteint des problèmes éminemment humains, c'est-à-dire on atteint des problèmes anthropologiques au sens le plus large, partagés par tous les humains, si ce n'est la majorité, d'aller, que les mêmes gens aillent en des lieux différents pour poser les mêmes questions dans le même esprit, vous apporte, vous permet de progresser, de trouver de nouvelles questions pour le site voisin et inversement, ainsi de façon, une sorte de triangulation qui va vous donner des problèmes en relief, des solutions en relief, alors que vous ne les voyiez qu'en deux dimensions auparavant ou que vous ne les voyiez pas du tout, tout simplement parce que ça ne se posait pas ou que vous n'étiez pas formé à poser les bonnes questions. Souvent, c'est ça. Vous savez, nous sommes enfermés dans une culture qui nous impose un carcan et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas été confronté à d'autres points de vue. On croit que ce sont des choses universelles. Or, rien de tel que ce dépaysement, mais un dépaysement successif, vous empêche de tomber dans de nouvelles ornières qui vont vous réenfermer dans un point de vue qui sera peut-être productif, mais qui vous empêchera d'atteindre certains types de problèmes. Alors, je mentionnais tout à l'heure les souvenirs intra-utérins. Bon, je vais en parler, puisque le premier chapitre de mon livre, « Être et renaître inouï », commence par les souvenirs intra-utérins de cette Iradiyok, cette grande amie qui est morte à 95 ans et qui a été un grand professeur de culture inouïe. Et le dernier chapitre se termine encore par des souvenirs intra-utérins découverts en 2003, à 1000 km de là, dans un autre village, alors que je revisitais ce village 40 ans après l'avoir visité, et que, comme ils le font maintenant, quand quelqu'un revient, on le soumet tout de suite à l'épreuve de la ligne ouverte en langue inuite. Alors, à peine mon arrivée aux îles Belcher, Krikartajouark, qu'on me dit, bon, demain matin, émission, ligne ouverte sur la radio locale du village. Bon. Alors, j'arrive là, et une femme, 45 ans, m'interviewait en langue inuite. Et il y avait les questions qui fusaient par téléphone. Et alors, à un moment donné, une voix appelle, dit « Je suis Marie Crétouchot, qu'est-ce que tu te souviens ?» Il y a peut-être 30 ans, 40 ans, tu étais venu interviewer mon père et ma mère, et j'étais là, est-ce que tu te souviens de nous ? Alors, j'avais mes généalogies tout près de moi. Alors, je lui dis « Mais oui, je me souviens très bien de toi, tu es la fille d'un tel et un tel, tu as tant de frères et sœurs, je donne tous les noms, enfin, je fais mon petit théâtre, donc des gens tout de suite, ah, mais il revient, il ne nous a pas oubliés. » Et après qu'elle eut raccroché, à la fin de l'émission, je dis à mon intervieweuse, je lui dis, tu sais, cette dame se souvenait de sa naissance. Ça, j'avais retenu ça. Bon, elle n'avait pas fait beaucoup de commentaires, mais elle se souvenait de sa naissance, et ça, je l'ai retenu. Alors, elle me regarde avec un sourire, elle me dit, mais ça t'intéresse, ces choses-là? Alors, je lui raconte l'histoire de Iradiyok, cette vieille dame d'Igloulik, qui venait de mourir, et qui, elle, se souvenait non seulement de sa naissance, mais de sa vie intra-utérine, et se souvenait d'avant, quand elle était son grand-père. Car elle est pensée, par les autres, être la réincarnation du grand-père. C'est l'âme du grand-père qui est dans son corps. Alors elle m'écoute. Et elle me dit, mais tu sais, moi je me souviens très bien de, non seulement de ma naissance, mais de ma vie dans l'utérus de ma mère. Ah. Je lui dis, mais c'est passionnant, il faut que tu me racontes ça. Elle dit, je ne l'ai raconté qu'une fois, j'en ai un peu parlé il y a une dizaine d'années à des vieux qui Il me dit, mais tu sais, c'est pas un rêve, c'est vrai que ce que tu dis là, mais sois prudente en le racontant. Et elle dit, j'ai pas voulu, elle est professeure à l'école secondaire du village, elle dit, j'ai pas voulu en parler à mes collègues de crainte qu'ils se moquent de moi, mais j'en ai parlé à mes finissantes, il y a 2 mois. Ces jeunes filles de 18, 19 ans, je leur ai dit, vous savez, vous allez sans doute être bientôt enceinte, si vous n'avez pas déjà été, il faut que vous sachiez que le fœtus est une vie, qu'il comprend, qu'il entend, qu'il a des sentiments, qu'il ressent plein de choses. Et elle leur a raconté ses souvenirs à elle. Et que c'est beau, je lui ai dit, si tu acceptes, j'aimerais te filmer et tu me raconteras ça en langue inouïe. Là, elle me racontait ça en anglais. Et elle me dit qu'elle avait fait un petit texte en anglais pour ses étudiants. Alors, elle m'a dit, oh, je veux bien, mais qu'il n'y ait que toi. Alors je l'ai filmé et j'ai transcrit ça, j'ai traduit ça, et c'est le dernier chapitre. Pour montrer quoi? Qu'il s'agit quelque part, non pas de fantaisie individuelle, comme les psychanalystes en entendent sur le divan, ils entendent leurs patients faire leur anamnèse, par exemple, ça s'appelle comme ça, ce retour en arrière et même au-delà, à la vie utérine. Donc pour nous, c'est considéré comme quelque chose de très individuel. Et ce que m'a fait comprendre cette expérience, c'est qu'il s'agissait d'un genre narratif. Et que dans toutes les communautés inuites, on trouvera des gens qui vont raconter leur naissance et leur vie intra-utérine. Et qu'on rencontre des mythes, et j'en ai collecté un certain nombre, où dans le mythe, on raconte aussi des souvenirs intra-utérins, etc. Donc je me dis, il s'agit là d'un genre narratif qui fait partie de la tradition orale et de la culture. Et dans le fond, pourquoi est-ce que ce genre narratif n'existerait pas dans toutes les cultures, y compris la nôtre? Alors je me souvenais qu'au Québec, il y a un grand monologuiste, le nom me reviendra, qui a fait dans ses monologues un très beau monologue qui s'appelle Le Fœtus. Et c'est l'histoire d'un fœtus qui entend ce qui se passe dehors et qui ne veut pas sortir. Parce que, alors ça c'est dans le monologue, il y a de la boucane, de la fumée. Les parents fument, il n'a pas du tout envie de sortir pour être dans cette boucane. Il y a de la chicane, ses parents se disputent. Alors il n'a pas du tout envie de sortir pour témoin de disputes sans fin. Et je l'avais enregistré, et dans un de mes cours, je faisais entendre à mes étudiants ce monologue d'Yvon Deschamps, c'est son nom, un des plus célèbres monologuistes du Québec, et les souvenirs intra-utérins d'Ira Dillon, qu'au contraire, à la fin de son souvenir, elle a très envie de sortir, elle se sent à l'étroit dans l'utérus, l'igloo est en train de fondre, ça coule de partout, c'est trop petit, elle a elle-même aussi, et elle pousse pour sortir. Et donc, j'opposais un peu. Et en cherchant bien, ben on découvre que dans la tradition orale ou écrite en France, il y a des individus qui étaient réputés se souvenir de leur vie intra-utérine, mais qu'on taxe de fou, je ne sais pas quel genre de maladie mentale correspondrait à ce genre de fantasme. On dit que Salvador Dali, c'était son cas. On dit que... enfin, j'en ai relevé... un auteur de théâtre, un peintre, un poète, en cherchant, et essayez autour de vous de creuser un peu la chose, vous verrez qu'on en trouve. Sauf que ces gens n'osent pas trop en parler de peur d'être catégorisés comme malade mental. Moi, j'ai une voisine à Paris qui est psychanalyste, très ouverte. Quand je lui ai cité ses auteurs, elle les a tout de suite taxés de malades mentaux avec des termes très précis et très négatifs. Bon, c'est son métier, je ne veux pas la blâmer pour ça, mais il y a peut-être là quelque chose que nous avons perdu, et que cette capacité, j'allais dire, de fantasmer sur ce qui a été avant la vie, cette première période, nous manque, et que quelque part, ça fait la richesse de cette société, où ce n'est pas tout le monde qui se souvient, mais les gens qui se souviennent souvent vont avoir des destins différents des autres, et comme par hasard, cette vieille Ira Dillon était la réincarnation de son grand-père. Quand elle était un fœtus mâle, Et elle raconte qu'au moment de sortir, elle a pris d'abord des outils masculins qu'il y avait dans le petit igloo utérin. Donc elle a pris un couteau d'homme, allongé, pointu, et puis une pointe de harpon. Et puis elle s'est dit, je vais sans doute affronter les dangers de la chasse et peut-être mourir noyée. Et elle a eu la préscience que son père biologique allait mourir. Son père est mort 6 mois après d'un accident de chasse. Et le fœtus a cette capacité sensorielle de voir l'avenir, etc., d'entendre, de comprendre, même sans parler, ce que les gens pensent. Elle a reposé les outils masculins et elle a pris de l'autre côté de l'igloo un couteau rond, semi-lunaire, et une petite marmite de femme. Elle est sortie, son pénis s'est rétracté, son périnée s'est fendu, et elle s'est transformée en petite fille. Pardon. Et voilà, elle me raconte, je suis un sipilerque. Ils ont un terme pour dire ça, c'est qu'il y a la racine de fendu. Alors, quelque part, un petit garçon qui s'est fendu. Ben, écoutez, on dit en français un garçon manqué. Pour certaines petites filles, qui développent des traits de caractère masculin. Et j'ai découvert un jour, une de mes étudiantes vient me voir, elle me dit, vous savez, moi je suis née au mois de février, sur la rive sud, juste en face de Québec, à Lévis. Et tout le monde m'a dit que j'étais en fait un fœtus mâle et qu'il faisait tellement froid le jour de ma naissance que je me suis fendu et je suis devenue fille. Ah ! Il dit, ben voilà une chose intéressante. Alors, vous voyez, je retrouvais à travers, une confession, sans doute qu'elle ne raconte pas ça à n'importe qui, mais elle m'entendait parler de ça, et du coup, ça a suscité chez elle cette mémoire. Et elle me dit, on m'a jamais habillé en petite fille. Comme j'étais un fœtus garçon, il n'y avait pas de garçon avant elle. Donc il y avait certainement, psychanalyste dirait, un désir de garçon très fort qu'on a investi sur la fille, qui s'est sentie poussée par ça. Elle était en jeans, on dirait, bon, à notre époque, il y avait des modes unisex, etc. Mais cherchez bien, allez voir dans les fratries où il n'y a pas de garçon. Et dans les fratries où il n'y a pas de filles. Et vous découvrirez que dans la fratrie, il y aura un des enfants, de même sexe que les autres, qui va être différent. Et qui, quelque part, sera peut-être l'enfant de l'autre sexe qu'on aurait aimé avoir. Et comme par hasard, ça va donner une fille, une craque en science. Il y a eu des études faites sur les grandes savantes, physiciennes, mathématiciennes, et on découvrait qu'elles venaient souvent de fratries sans garçons. Et qu'elles étaient numéro 1 ou numéro 2. Vous savez, quand l'espoir, bon, numéro 1, c'est le premier, donc, mais parfois c'est le numéro 2. Alors, le numéro 3, c'est la troisième fille, c'est un destin parfois plus difficile à porter, parce que là, attention, il y a des familles qui s'arrêtent après procréer. Quatrième, encore une fille, mon Dieu. Bon, alors voilà des domaines qui n'ont été absolument pas étudiés par l'anthropologie. Et c'est dommage. Et on a laissé aux sciences psy l'exclusivité de l'investigation sur ça. Alors que c'est un phénomène social. On vous construit selon votre rang de naissance, selon l'attente un peu des parents. Quel était le rang de naissance des parents? Le jour où j'ai découvert que ma mère était la deuxième fille de trois... Il y a eu un frère, mais en dernier. Ah, j'ai compris les choses. C'était pourtant une blonde aux yeux bleus, donc pour moi un modèle de féminité. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce modèle de troisième sexe, un jour, elle me fait raconter, elle va chercher un vieil album de photos et elle vient me montrer une photo d'elle, à l'âge de 7 ans, jouant dans une pièce de théâtre un rôle de garçon. Et une autre photo, elle était habillée en petit garçon. Elle était en quelque sorte un petit peu le garçon manqué pendant au moins un certain temps. Et elle se différenciait complètement de sa sœur aînée, code ménagère, enfin qu'on orientait tout à fait vers des tâches qui, à l'époque, au début du XXe siècle, étaient considérées comme féminines pour se préparer au mariage. Donc, vous voyez, il y a des manques dans notre connaissance de notre propre société et le contact d'autres sociétés, d'autres coutumes, nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes et qu'il y a des pans entiers de nos traditions qui ont été comme occultées et qui vont réapparaître comme par hasard sur le divan du psychanalyste. En creusant un peu, ben, ça ressort. Alors que c'est partagé par toute la communauté quand vous allez dans les sociétés à tradition orale. où il n'y a pas ce poids de structures sociales complexes, de religions écrites, donc avec des codes anciens qui se perpétuent, qui se renouvellent un peu parfois, mais c'est plus conservateur, les structures religieuses, les textes, avec l'âge, prennent une valeur presque un peu sacrée. Regardez toutes ces morts, toutes ces guerres au nom de la Bible, ou au nom du Coran. On prend des textes anciens et puis on veut les appliquer à la lettre, alors qu'ils ont été écrits dans certains contextes qui seraient bons de connaître. Et c'est là que la tradition orale est toujours plus intéressante que la tradition écrite, parce que la tradition orale, elle est constamment branchée sur la vie. Alors, bon, vous voyez, c'est de l'ethnographie des Inuits, mais quelque part, c'est une réflexion aussi sur notre société, sur soi-même. Alors, être et renaître. Tout à l'heure, la radio, je ne me souviens plus du nom de cette radio, Divergence en interviewant, m'a interviewé sur le titre. Et je me suis dit, ben, les trois termes, être et renaître, et nous, et Tom Tom Chaman, chaque terme appelle commentaire. Alors, être. Pour nous, vous avez chacun une carte d'identité, une photo, une empreinte digitale, tout ce qui va prouver que vous êtes bien la personne que vous êtes. Vous avez un prénom, un nom de famille, donc normalement, il n'y a pas tellement d'homonymie. Vous avez peut-être un deuxième ou un troisième prénom pour clarifier les choses. Une empreinte digitale. On parle maintenant d'empreinte génétique. Donc là encore, on va aller encore plus loin dans l'identification et l'unicité de la personne pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est ce qu'on appelle l'individu, qui ne peut pas être divisé. C'est le sens du terme. Individu. Donc c'est unique. Vous arrivez chez les Inuits, chaque personne a entre 1 et 12 noms. Il n'y avait pas de nom de famille, il n'y avait que des noms personnels. Et chaque nom va vous donner une identité. Donc c'est une identité non pas individuelle, mais une identité, pareil que Foucault avait utilisé ce terme, individuelle, divisible. Vous êtes plusieurs. En un, sous une apparence. Donc c'est l'apparence qui peut être une, mais vous-même, vous êtes. Et chacun de vos noms va représenter une identité parce que vous réincarnez la personne dont vous avez reçu le nom. Elle revit en vous. Donc Iradilior, la vieille informatrice, était son grand-père. Et sa mère l'appelait papa. Non, elle l'appelait même pas papa. Elle l'appelait frère aîné, parce qu'elle-même avait reçu le nom de la sœur défunte de son père. Donc son père l'appelait petite sœur, et du coup elle va appeler sa fille frère aîné, qui était le terme qu'elle utilisait pour son en raison d'une autre homonymie. Il faut de l'algèbre, il faut une machine à calculer pour décoder ça. Alors imaginez, pour un nom, deux noms, trois noms, quatre noms, vous aurez par exemple trois noms de femmes, deux noms d'hommes, chacun vous met dans une position généalogique différente. Les gens qui étaient reliés avec l'éponyme, avec la personne dont vous avez reçu le nom, vont utiliser un des noms. Donc un des noms va peut-être être utilisé par trois familles, un autre par 15 familles. Et les enfants, dès l'âge de 5 ou 6 ans, répondent par le terme correspondant, sans se tromper. Donc ils ne connaissaient ni l'algèbre, ni l'arithmétique, rien de tout ça. Et ils nageaient dans cette réalité virtuelle de façon extraordinaire. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit papier sur justement cette réalité virtuelle intégrée dans la vie sociale dans un ouvrage collectif publié par le ministère de la Culture, la Collection du Patrimoine, sur l'adoption. Un ouvrage dirigé par Agnès Pin, et qui était au courant de mes recherches, m'avait demandé de faire quelque chose sur les Inuits. Donc j'ai pris une famille, j'ai essayé de montrer comment chacun appelait chacun. Et dans une famille, mettons, je ne me souviens plus du nombre d'enfants, il y avait sur 10 enfants, une seule fille que la maman appelait ma fille, et qui était sa fille. Les autres étaient tous appelés par des termes qui n'avaient rien à voir avec le fait qu'ils étaient fils d'eux, mais qui avaient à voir avec le nom.